Eh bien voilà, nous sommes là et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Macron s'exprima à 20h ce soir à la télévision. Jean Castex face au Parlement. Demain, ce n'est pas pour annoncer des demi-mesures. La piste d'un reconfinement se précise pour casser les chaînes de transmission du Covid-19. C'est ce que demandent les médecins, vous l'entendrez, car les hôpitaux craignent de ne plus faire face à l'afflux de malades.
Un reconfinement plus souple qu'au printemps avec écoles et collèges ouverts, voire les lycées, pour que la continuité pédagogique et pour que les parents puissent aller travailler aussi.
L'Irlande l'a déjà fait, la France y sont. Donc, l'Allemagne également. En Israël, le deuxième confinement a porté ses fruits sur le plan sanitaire, mais il a rompu la confiance entre la population et le gouvernement. Nous irons à Jérusalem dans quelques instants.
Et puis, à la une encore, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'apprête à proposer la dissolution de l'association Baraka City en Conseil des ministres.
Des messages du président de cette ONG relèvent de l'apologie du terrorisme selon le gouvernement. En Pologne, les conservateurs mobilisent leurs partisans contre les manifestations en faveur de l'avortement. Près d'une semaine que le pays connaît une vive contestation, grève nationale prévue aujourd'hui.
Et puis en question du jour, je me suis dit qu'il fallait un peu changer les idées, Catherine. On a trouvé une origine du monde préhistorique. C'est à Fontainebleau à quoi pensaient les hommes et les femmes du paléolithique. Ben, la même chose que vous d'ailleurs. Emmanuel Guy vous le confirmera, il est historien d'art paléolithique.
523 morts en 24 heures à l'hôpital et dans les EHPAD, alors qu'au plus fort de la première vague épidémique de Covid en avril, plus de 700 morts étaient enregistrés certains jours. Les hôpitaux craignent de nouveau d'être saturés dans les prochains jours ou les prochaines semaines. 2900 patients en réanimation hier, c'est la moitié des lits de réa qui sont occupés par des malades du Covid-19. Avant la prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir à la télévision, les médecins demandent donc des mesures sanitaires drastiques, car le couvre-feu n'a pas été suffisamment efficace, selon le professeur Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis.
On n'a pas les effets attendus et on a au contraire une accélération de l'épidémie. Je le vois au niveau de mon hôpital où j'ai de plus en plus de mal à placer mes patients malades, même les patients graves, dû à la saturation des services et des réanimations. Donc je suis effectivement pour un renforcement des mesures qui visent à diminuer le nombre de malades qui arrivent à l'hôpital victimes du Covid, parce que notre problème est un problème capacitaire. On n'a pas assez de place, on n'a pas assez de services, on n'a pas assez de personnel pour soigner tous ces malades. Mais je suis quand même inquiet pour l'avenir à plus long terme sur les traces que vont finir par peser sur notre système de santé par ces mesures de confinement. Je parle bien sûr des autres pathologies, des autres patients.
Le professeur Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny, en région parisienne, il répondait à Daniel Messager. Reconfiner ou non, alors que l'exécutif français se pose la question, Israël dresse le bilan de plus d'un mois de reconfinement. Dans ce pays de 9 millions d'habitants qui détenait l'un des plus forts taux de contamination au monde, avec entre 8000 et 9000 contaminations quotidiennes. Retour d'expérience avec Alice Froussard.
Sortir de chez soi à plus d'un kilomètre est possible. Les crèches, les parcs, les plages ont rouvert, mais toujours pas les cafés, les bars ni les écoles. Et en Israël, le deuxième confinement a laissé des marques. Même si le gouvernement a aidé financièrement quelques commerçants, l'argent s'est fait attendre. Les débuts de la reprise ont été stoppés net. C'est compliqué économiquement, nous dit Ariel, propriétaire d'un restaurant de Tel Aviv. Il a fallu un peu de réorganisation.
On a dû fermer pendant toute la durée du confinement, mais les derniers jours, on a essayé de faire des livraisons. Et puis maintenant, on propose des plans emportés.
Mais depuis cette deuxième fermeture complète du pays, les taux d'infection continuent de baisser, tout comme les admissions des cas graves dans les hôpitaux, explique professeur Agai Levin, épidémiologiste.
Si cela continue dans cette direction, ce sera un grand soulagement pour le personnel des hôpitaux. Mais ce qui m'inquiète, c'est surtout la perte de confiance dans les dirigeants.
Les Israéliens dénoncent des décisions politiques plutôt que sanitaires, des mesures trop floues. Il y a eu aussi toutes ces entorses au confinement, notamment les communautés ultra-orthodoxes qui ont eu du mal à respecter les consignes. Une chose est sûre, ce deuxième confinement a rompu définitivement la confiance entre population et gouvernement.
L'Allemagne, comme la France, doit décider aujourd'hui lors d'une réunion de crise d'un tour de vis supplémentaire dans l'espoir d'enrayer la propagation rapide et incontrôlée du Covid-19. Angela Merkel précise un lockdown light, comprenez une version allégée du confinement avec fermeture des bars et des restaurants ainsi qu'une interdiction des rassemblements publics. En France, je le rappelle, le scénario du reconfinement national n'est plus un tabou. L'exécutif songe à une version plus souple que celle de mars dernier puisque les écoles et des commerces pourraient rester ouverts. À l'image du reconfinement confinement imposé en Irlande. Emmanuel Macron doit trancher ce matin en Conseil de défense, puis annoncer les nouvelles mesures aux Français ce soir à 20h à la télévision. L'exécutif veut maintenir un semblant de vie économique pour éviter une catastrophe, a résumé François Baroin, le président de l'Association des maires de France, à l'issue d'une réunion hier soir avec le Premier ministre Jean Castex. C'était au ministère de la Santé, avenue de Ségur, à Paris. Les responsables politiques en sont ressortis déçus, voire mécontents, Stéphane Robert.
Au-delà de la description d'une situation sanitaire catastrophique, à savoir que les hôpitaux français seront saturés d'ici 15 jours, le Premier ministre et son ministre de la Santé n'ont rien dévoilé hier soir des mesures envisagées pour tenter d'endiguer la progression exponentielle de l'épidémie de Covid-19. Les responsables politiques de l'opposition sont donc ressortis un peu interloqués de cette réunion, à l'image de Marine Le Pen et de Christian Jacob, président du Parti Les Républicains.
On nous réunit pour nous demander notre avis sur des mesures que l'on ne connaît pas, des hypothèses que l'on ne connaît pas. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Non, on ne sait rien. Mais c'est incroyable.
Moi, je suis très surpris de la manière dont cette réunion a été programmée, conduite. Et encore une fois, rien n'a été mis sur la table. Concrètement, non, aucune mesure. Il nous a dit lui-même qu'il ne connaissait pas les mesures qu'annoncerait le président de la République.
Ce qui leur a également beaucoup déplu, c'est qu'on leur a promis que les parlementaires seront consultés, qu'un débat sera organisé à l'Assemblée et au Sénat. Mais après coup, Adrien Quatennens participait à la réunion hier soir au nom de la France Insoumise.
On nous dit que le Parlement aurait à se prononcer jeudi. Ça veut donc dire que le Parlement aurait à se prononcer après qu'Emmanuel Macron ait annoncé aux Français les décisions. Donc y compris en termes de méthode, tout ça laisse à désirer.
Emmanuel Macron annoncera ce soir s'il décide ou non de reconfiner les Français. Les débats à l'Assemblée et au Sénat auront lieu demain, donc un vote des députés et des sénateurs est également prévu, mais un vote non contraignant qui n'engage à rien.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. C'est ce matin que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, devrait demander au Conseil des ministres d'acter la dissolution de l'ONG Baraka City. Il l'accuse de faire le jeu de l'islamisme radical.
En mars 2019, une enquête pour financement du terrorisme avait été classée sans suite, mais depuis, la personnalité sulfureuse de son fondateur, Idrissi Ahmedi, est dans le viseur des autorités. Il est soupçonné de cyberharcèlement avec le procès des attentats de janvier 2015. Et le projet de loi sur le séparatisme, il s'était répandu sur les réseaux sociaux. Dissoudre son association, c'était ce que demandait Francis Choix, l'ancien maire d'Ivry et actuellement député LREM de l'Essonne. Il le demandait depuis des années, mais sans succès.
Il y a eu des enquêtes, c'est une organisation qui est très structurée, brasse des millions d'euros, mais ce n'est au fond que très récemment que son principal dirigeant, M. Siamidi, s'est livré sur les réseaux sociaux à de véritables campagnes de harcèlement et justifiant les activités de l'islamisme radical. Et ce sont ces dernières semaines, juste avant ce dramatique assassinat par décapitation à Conflans-Sainte-Honorine, que les yeux se sont ouverts. Et je vois bien qu'il y a de la part des avocats de cette organisation une volonté de continuer à dresser un rideau de fumée entre les activités vitrines légales d'une prétendue organisation non gouvernementale et puis celle de son dirigeant. Puisqu'ils disent au fond, il ne faut pas confondre les déclarations du dirigeant Siamidi et l'ONG Baraka City. Sauf qu'il n'y a pas Baraka City s'il n'y a pas Monsieur Siamidi.
Francis Choix, actuellement député LREM de l'Essonne, il répondait à Sophie Delpont. Le ministre de l'Intérieur promet également de dissoudre le collectif contre l'islamophobie en France d'ici 15 jours. Gérald Darmanin, qui a été sommé par ailleurs de s'expliquer pour avoir participé à un débat en présence de ce même CCIF à Tourcoing il y a 7 ans. Alors les politiques se compromettent-ils avec des associations problématiques ? Écoutez l'analyse d'Adler Zwilling, ingénieure de recherche au CNRS à Strasbourg. Elle travaille notamment sur les dynamiques des groupes religieux minoritaires en France.
C'est certain qu'il y a un certain nombre de personnes en place dans les pouvoirs publics au niveau local qui jouent un peu la carte du clientélisme. Maintenant, c'est de loin pas réservé aux associations islamiques et ça va dépendre du coup et des endroits et des moments. Maintenant, il y a probablement une part de bonne foi qui a joué, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments ou des lieux où on a pensé que c'était une bonne chose que d'impliquer mieux et plus des associations locales pour travailler au mieux vivre ensemble collectif. Et certaines ont pu donner l'impression qu'elles allaient vraiment le faire, soit parce qu'elles, en toute honnêteté, elles estimaient être à même de le faire et puis qu'après, elles ont un peu évolué, ou soit parce qu'elles s'étaient dit que c'était une bonne carte à jouer. Voyez, d'autre part, on est sur une ligne de crête de toute façon, c'est-à-dire que c'est essentiel aussi de prendre en compte de façon positive l'existence d'un nombre important de musulmans en France, et c'est essentiel d'admettre et de valoriser positivement le fait que bon nombre d'entre eux sont tout à fait disposés à participer de façon sereine et pacifiée aux différents débats publics qu'on peut vivre.
Anne-Laure Zwilling, chercheuse au CNRS à Strasbourg, au micro de Laura Dulieu. Un nouveau drame migratoire dans la Manche. Un homme, une femme et deux enfants de 5 et de 8 ans sont morts hier dans le naufrage d'un bateau en route vers les côtes anglaises. En Pologne, le chef du PiS, le parti ultra-catholique nationaliste Droit et Justice, a dénoncé hier des tentatives de détruire son pays et il a appelé ses partisans à défendre les églises contre les manifestants favorables à l'avortement. Un discours loin d'apaiser les tensions alors qu'une grève nationale est prévue aujourd'hui après plusieurs jours de manifestations et d'une mobilisation d'une ampleur inédite en Pologne sur ce sujet. À Varsovie, le reportage de la correspondante d'RFI de France Culture, Sarah Bakaloglou.
Pancarte à la main, Justina manifeste depuis maintenant 5 jours à Varsovie. Pour la jeune femme rencontrée devant le Parlement polonais, la mobilisation actuelle est bien différente de celle de ces dernières années.
Les émotions ne sont pas les mêmes. Avant, les manifestations de femmes étaient tristes et maintenant, c'est une grande explosion de colère, de fureur. Ce qui s'est passé est la goutte de trop. Je pense qu'on ne va pas se satisfaire d'une réponse seulement sur l'avortement. Le problème est plus profond et la crise bien plus grande.
Car la question de l'avortement est devenue un symbole d'une colère plus générale dirigée contre le parti Droit et Justice au pouvoir depuis 2015 et ses atteintes à l'état de droit. Clémentina Souanov fait partie du mouvement La Grève des Femmes, leader de la contestation. Son organisation a évolué avec la mobilisation.
Nous sommes la grève des femmes, mais nous entendons les manifestants dans les rues, ce qu'ils disent, ce qu'ils demandent. Et nous voulons, tout le monde veut le départ du gouvernement. Les gens nous font aujourd'hui tellement confiance que cela dépasse le droit des femmes, parce qu'ils viennent d'autres secteurs de la société, comme les chauffeurs de taxi par exemple.
Une mobilisation qui va continuer dans les prochains jours. Outre la grève aujourd'hui, une grande manifestation est prévue dans la capitale ce vendredi.
Sarah Bakaloglou à Varsovie pour France Culture. À moins de 10 semaines de l'échéance du Brexit, Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, a repris hier à Londres ses discussions avec son homologue britannique. Beaucoup de questions encore en suspens, notamment sur le plan agroalimentaire et des normes sanitaires. Reportage à suivre dans le journal de 7h30. Le temps de ce mercredi 28 octobre, encore nuageux et pluvieux. Les températures sont comprises ce matin entre 7 et 13 degrés d'est en ouest, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu.